Bonjour. Merci pour ces paroles de louange. Je vais poursuivre simplement ce qui a déjà été partagé ce matin. C'est quand même un peu tremblant que je me trouve devant vous ce matin, même si c'est encouragé par le conseil aussi avec qui j'ai partagé. Encouragé aussi par Odile et Vili, qui ont relu mon texte et qui m'ont fait des retours positifs. Ce matin, c'est un petit peu ma perception, mon chemin, ce que je vis, mais je pense que ce que nous pouvons aussi vivre en Église, quelque chose de vivant, un espoir que j'ai envie de vous partager. Et en introduction, je lis dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 17b à 19, une prière de Paul pour l'Église d'Asie. Que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Je prends ce texte comme un point d'ancrage pour ma réflexion du jour. Ce texte, nous l'avons déjà abordé au cours de prédication, au cours de présidence. Peut-être vous l'avez médité durant ces 3 mois, voire mémorisé durant cette période de confinement. Je vous encourage à le garder sur notre cœur. Mais comme vous, avant de poursuivre, je me suis questionné. Où en sommes-nous aujourd'hui, personnellement, communautairement, après cette période de 3 mois ? Il y a certainement une multitude de situations personnelles, de ressentis, d'émotions, d'états d'esprit, tant positifs comme la joie de se retrouver ce matin, mais aussi négatifs comme le fait de ne pas s'être senti compris, pas clairement informé. Il est fort probable qu'au cours de ces 3 mois, vous ayez aussi passé vous-même par plusieurs de ces états. Cela fait partie de notre humanité, et ceci même sans le confinement. Peut-être que la distanciation, l'isolement, on a pu ajouter une difficulté supplémentaire, me semble-t-il, celle de ne plus être confronté aux autres, de ne plus pouvoir partager notre point de vue, quelque part de ne plus évoluer communautairement. Et comme mentionné en Proverbe 27, 17, « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Les différences de caractère, de tempérament, les goûts des uns et des autres, ces différences sont un enrichissement non seulement pour la connaissance, mais aussi pour polir nos caractères, même si celui qui change les cœurs reste le Seigneur. Le défi ce matin, c'est que Dieu nous rejoigne tous, ici et maintenant. Et mon espoir est comme l'exprime ce chant d'Hillsong France, « Tu nous aimes trop pour nous laisser là ». Peut-être que ce matin, nous avons tous besoin de retrouver un repère commun, et il se pourrait que ce soit l'amour du Père. Alors je vais poursuivre ma réflexion en 4 étapes, et j'espère que ça nous amènera ensemble à envisager la 5e. Tout d'abord, je pense qu'il est nécessaire de confesser notre besoin de repère. Nous avons peut-être perdu ce repère commun, à force de zapper d'un culte à l'autre, selon nos propres choix, selon nos affinités, d'être sélectif quelque part peut-être à notre convenance, sans avoir besoin de nous confronter aux autres. Mais le confinement nous a peut-être aussi isolés, a pu nous centrer finalement sur nous comme seul point fixe, afin, avec le risque d'être notre seule référence, en n'étant plus aiguisé par la vie des autres. Et par ailleurs aussi, suite à la démission de notre couple pastoral durant le mois de mai, déstabilisé, lâché, incompris, triste, il y a aussi eu une perte de repères. Dans ces moments-là, que faire? Comment faire? Sinon revenir premièrement à la croix pour y déposer ses émotions, nos états d'âme, être guéris de nos blessures et confesser notre besoin de retrouver communautairement un véritable repère. Mais je crois qu'en lien avec cette première étape, la deuxième y est intimement liée, soit celle où nous pouvons simplement recevoir l'amour du Père. Et j'espère que Dieu le Père a pu vous rejoindre durant ces 3 mois, au travers d'une parole de la Bible, d'un message entendu par streaming, d'un chant transmis par WhatsApp. En tout cas, moi, j'ai apprécié de temps en temps dans ces WhatsApp d'écouter des chants que certains nous ont proposés. Il y avait des beaux chants, il y a des choses qui m'ont touché. Ou au travers d'un échange téléphonique ou d'une autre façon. C'est un bon point pour repartir. Une semence que Dieu plante en nous dans un cœur repentant. Et c'est le psalmiste qui le dit au psaume 36:8. « Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. » Mais ce serait dommage de nous contenter de le recevoir et de nous en satisfaire. Ce serait comme la semence qui a été déposée sur le roc dans la parabole du semeur. Et Luc 13 nous dit, « Lorsque ceux qui reçoivent la parole la reçoivent avec joie mais sans racine, ils croient pour un temps et la joie s'en va. » Donc attention, nos sentiments ne suffisent pas, nos émotions sont volatiles, surtout si on laisse envahir par la tristesse, si l'on succombe à la colère, voire à la tentation, notre premier amour se perd. Selon la prière lue en introduction, plus que de recevoir seulement l'amour du Père, Paul intercède pour que chaque chrétien le comprenne dans ses quatre dimensions et aussi le connaisse, même si cet amour du Christ dépasse toute connaissance. Alors la troisième étape, c'est connaître l'amour du Christ. Quelle est cette connaissance? Certes, du domaine de l'intelligence, celle qui permet d'appréhender les choses spirituelles. Mais attention, si seule cette dimension est engagée, alors il y a le risque que la semence semée dans les épines soit étouffée par les soucis, par les tristesses, par les plaisirs de la vie. Car si notre intelligence n'est pas renouvelée, elle ne nous permettra pas de porter du fruit à maturité. L'intelligence et la volonté ne suffisent pas, tout comme les sentiments. Ces caractéristiques sont du domaine de l'âme, sont certes nécessaires, mais pas suffisantes. Et selon un commentaire de l'Épître aux Philippiens de Rosemary Morlaix, le sens chrétien du mot « connaissance » est spécifique. On le trouve aussi dans d'autres textes, comme en Philippiens 3:10. Cette connaissance est plus qu'intellectuelle, le verbe hébreu « connaître » désignant l'acte conjugal. Cette connaissance est de la dimension d'une relation profonde, d'une relation intime. Le sujet de la connaissance n'est pas une simple doctrine, mais une personne, Dieu. Et cette connaissance est supérieure à tout ce qu'on peut concevoir. Elle est du domaine non plus de l'âme, mais de l'esprit, du champ de la révélation du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans sa dimension spirituelle. Connaître le Christ, c'est toujours plus en communion avec lui, avoir Christ vivant en soi. Et ça, c'est le plan de Dieu depuis le début de la création. Il suffit de se référer à Éphésiens 1 au verset 5. Vraiment, Dieu a ce souci, ce souhait, ce désir, cette volonté d'être en relation avec nous, cette relation d'amour. Alors que Margide, dans Planting of Love, dit, nous donne quelques clés pour nous aider à grandir dans cette dimension d'amour. D'une part, en passant du temps avec le Père, en lui exprimant notre besoin. Même en lui disant simplement cette prière, « Père, remplis-moi de ton amour maintenant. » En un mot, aspirer à cette relation. Mais aussi une remarque, savoir que notre cœur est plus lent que notre cerveau. Notre cerveau a l'étonnante capacité de traiter plusieurs infos simultanément. Il est multitâche. Vous faites quelque chose, vous pouvez penser à ce que vous allez faire après ou à ce que vous avez mangé avant. Mais notre cœur, il n'est pas comme ça. Lui, il opère à un rythme beaucoup plus lent. Donc, connaître intellectuellement, ça peut aller très vite, mais connaître avec le cœur, ça requiert de ralentir, de ne pas s'attendre à ce que tout change en un instant, mais laisser l'Esprit Saint nous transformer. Parce que Romains 10 exprime que c'est avec le cœur que nous croyons, et pas seulement avec notre tête. Cela ne se fait pas en un clin d'œil. Nos vies entrent dans un processus de changement durant lequel nous sommes en transformation. Même si cela peut être difficile, avec des embûches, avec des peines, avec des hauts, avec des bas, pour connaître et expérimenter que Dieu a un Père pour nous chaque jour. Mais arrivons à cette troisième étape. Aimer, aspirer, aimer, cela ne devrait pas s'arrêter. Dieu est amour, c'est une certitude, son action est vivant dans nos cœurs, Romains 5:5 nous le dit, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il se pourrait que cet amour déversé dans nos cœurs ne puisse pas seulement y rester, mais qu'il doive déborder, nous pousser au troisième A. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les trois A? Aimer, aspirer et agir. Voilà. Ou autrement dit, le mettre en pratique, le vivre. La prière de Paul aux Éphésiens, lui en introduction, est complétée par une autre prière de Paul en Philippiens 1, versets 9 et 11, et je lis dans la version Colombe, qui m'avait touché. « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance, et il ajoute autre chose, et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable. » Texte aux Éphésiens, il est assez intéressant parce que finalement, il nous parle de l'amour, de la connaissance. C'est quelque chose que je médite depuis longtemps, mais quand j'ai lu ce deuxième verset, cette deuxième prière, j'ai vraiment été interpellé en me disant que cet amour, il doit se décliner en vraie sensibilité. Et j'ai été repris personnellement, interpellé par ce petit verset, remis à l'ordre dans la période troublée que nous avons vécue au mois de mai. C'est bien beau de méditer sur l'amour du Père, mais j'ai réalisé qu'il faut que cela se concrétise. Cela nous rappelle que l'amour chrétien ne se limite pas à un sentiment. Il doit être un amour intelligent qui se manifeste par des actes pratiques, sensibilité, discernement. Et peut-être pour ceux qui suivent le guide, vous rappelez un commentaire de Martin Heuger ce printemps, alors qu'on suivait la lecture de 1 Pierre. Et je vous lis ce qu'il explique. L'agapé, l'amour fraternel, est le style de vie des chrétiens. Quelle est sa nature? Il est accord des cœurs, sensibilité à l'autre en disant du bien de lui, tendresse, bienveillance et humilité, maîtrise de la parole, passion pour le bien et recherche de la paix. Quels sont ses effets? Il ouvre le ciel, attire la bénédiction, exauce la prière, prolonge la vie, et est source de bonheur, bref, l'agapé obtient tout. Cependant, l'amour n'est pas toujours aimé. La persécution, voire le martyre du sang, peuvent être des horizons de la vie chrétienne. Mais comment vivre l'amour dans les conditions contraires? Quelle attitude adopter? Eh bien, en continuant à aimer de manière paradoxale, c'est-à-dire en ne rendant pas le mal pour le mal et en bannissant la peur de notre esprit. En toute chose, garder son cœur plus que tout, et tout faire au plus près de sa conscience, puis rendre compte de l'espérance qui nous habite. Mais avec discernement, en parlant avec douceur et respect, pas de rage théologique, et avec l'espérance que notre attitude aura une conséquence salutaire sur autrui, et ce, même si nous ne le voyons pas tout de suite. Et sincèrement, moi je pense que cela nous concerne tous aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit, nous fasse la grâce d'entrer dans cette dimension de l'amour du Père, de le mettre en pratique ici et maintenant. Nous soutenons, nous encourageons les uns les autres. Cela est un signe de maturité spirituelle qui s'applique aussi dans nos relations. Et pour aller un tout petit peu plus loin, dans une autre version de ces versets de Philippiens 1, 9 à 11, selon la Bible en français courant exprime, voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraie connaissance et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ, vous serez riches des actions justes produites en vous par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Discerner ce qui est important, essentiel, mettre à l'épreuve, et ne pas se déchirer sur des questions secondaires. Est-ce discernement, il naît de l'amour, il n'est pas de la loi. C'est une pure grâce de Dieu que d'entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alors si on confesse, si on reçoit, si on connaît cet amour, si on le vit, est-ce que finalement la cinquième étape, ça ne serait pas de partager l'amour du Christ ? Et dans la situation actuelle éprouvante pour l'Église, il nous faut non seulement recevoir cet amour du Père, en faire une priorité, mais aussi nous rappeler des versets suivants d'Éphésiens 3 au verset 20 et 21. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous imaginons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Il y a cette action de Dieu dans nos vies personnelles, mais aussi dans notre communauté. C'est sa part, mais effectivement la nôtre. C'est aussi de l'assumer, de la mettre en œuvre. D'ailleurs, l'amour chrétien, il est précisément décliné en 1 Corinthiens 13, des versets 4 au verset 7. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il n'est pas enflé d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, d'autres versions disent « pardonne tout ». Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Tout un programme à vivre déjà entre nous, mais aussi, n'est-ce pas, un témoignage vis-à-vis de l'extérieur. À ce jour, si l'enjeu est de connaître l'amour du Père, de grandir dans cette dimension relationnelle, de vivre cet amour ensemble, mais aussi de le partager, je crois que c'est nous placer vraiment dans une perspective de vie avec un grand V, dans le projet de Dieu. Et cette compréhension a été reçue au cours de notre parcours transformation, avec le couple pastoral. Pour ma part, ça a été un temps fort et aussi une conviction partagée, une visée pour notre Église locale. Mais pour orienter notre projet, il nous faut discerner quel est celui de Dieu pour notre Église, comment nous y inscrire, quel est notre véritable amour pour les gens qui vivent autour de nous, et ne pas avoir crainte de partager cet amour. Alors par rapport à l'Église, il est approprié de rechercher une vision partagée à l'écoute du Seigneur, de rester humble à l'image du Christ, non pas timide mais courageux, comme Matthias nous l'a récemment rappelé. Ils nous ont aussi exhortés à nous lever, à recommencer une nouvelle fois, recevoir cette révélation du Saint-Esprit dans notre esprit. Et au début 2020, Matthias nous a parlé de nous consacrer à Dieu. Quelles sont donc aujourd'hui, après la pandémie, les œuvres préparées par Dieu pour notre Église par rapport à quel projet pour rejoindre quelle personne, et ceci en étant tous porteurs de l'amour de Dieu? Merci de porter avec nous cette réflexion, de pouvoir progresser ensemble cet été, avec certes plein d'incertitudes, mais pourquoi pas aussi d'opportunités par la grâce de Dieu. Et je pense que cette réflexion peut être aussi un peu un fil rouge durant cet été pour nous guider dans les cultes que nous vivrons ensemble dans les temps de partage. Seigneur, nous fasse la grâce vraiment de recevoir son amour, de pouvoir le connaître plus intensément, de pouvoir le vivre pour le partager. C'est ma prière. Pour moi, c'est ma prière. Pour ma famille et pour l'Église. Amen.